Bienvenue à toutes et tous sur Startup Job Story, le podcast qui décrypte les métiers en startup. Proposé par la Fresh Tech in the Alps, le collectif des startups alpines, il invite à découvrir les métiers de demain à travers le regard de celles et ceux qui les exercent aujourd'hui. C'est Mathilde qui se charge d'interviewer notre invité. Allez, c'est parti!
Bonjour, je suis Mathilde Gandon, je travaille pour la Fresh Tech in the Alps Grenoble. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Cédric Wartel. Bonjour Cédric.
Bonjour Mathilde.
Cédric, tu occupes le métier de CTO. Donc on va y revenir, ça va être l'objectif de décrypter ce métier.
Très bien.
Mais juste avant, je voudrais savoir quel est l'objet que tu nous as ramené, qu'est-ce que c'est ?
Alors il s'agit d'un oxymètre, c'est un petit objet qui vient pincer le bout du doigt finalement, et la finalité de ce dispositif médical, c'est de relever la saturation d'oxygène dans le sang. Alors pourquoi j'ai amené cet objet ? Parce que c'est un objet finalement qui a jalonné toute ma carrière. J'ai travaillé dans le domaine de la télémédecine notamment, et cet objet permet finalement de remonter des données médicales et ensuite de pouvoir les utiliser dans des services à valeur ajoutée, pour générer des alertes, pour surveiller des gens à distance. Donc c'est à la fois un objet qui porte du sens sur des sujets de santé et qui a une forte connotation technologique. On est sur un objet connecté. Voilà ce que j'ai voulu amener aujourd'hui. Un saturomètre.
Merci. Merci Cédric. Donc on voit le lien finalement direct avec le côté digital, numérique.
Absolument.
Qui a, j'imagine, fait le fil rouge de ta carrière peut-être.
Tout à fait, tout à fait.
Ok, bon alors je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Tu es CTO, c'est un terme qu'on entend beaucoup dans les startups.
Oui.
Mais CTO, donc c'est les lettres CTO en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Chief Technical Officer. Il y a une très jolie traduction en français, c'est directeur technique, qui suffit souvent. Donc CTO, effectivement, c'est la personne qui est en charge de toute la partie technique, technologique, et puis on va donc jusqu'au digital, dans une start-up. Et à ce titre-là, c'est quelqu'un qui, presque avant tout, doit être interface, qui doit pouvoir comprendre les enjeux techniques, technologiques, les complexités qu'il peut y avoir, pour pouvoir les partager, les transcrire et aider les autres à arbitrer en fonction de ces enjeux, des choix et puis des stratégies qui ont été définies dans l'objectif de la start-up.
Donc c'est l'interface finalement entre toute la connaissance technique, technologique du produit ou du service et les personnes qui sont plus en charge de la direction, de la stratégie.
Tout à fait, de la direction, du marketing, de la stratégie, commerciale évidemment aussi, voilà. Ça c'est le rôle, j'allais dire le méta-rôle du directeur technique, du CTO, mais évidemment c'est quelqu'un aussi qui a la tâche de manager les équipes techniques pour qu'effectivement les objectifs soient atteints, qui a aussi la tâche d'avoir toujours un œil qui traîne, une oreille qui traîne pour sa veille technologique, pour que... Alors, la start-up est a priori innovante, mais l'innovation, c'est jamais fini. Et quand on rentre dans le vif du sujet, quand on commence à travailler, il ne faut pas avoir le temps de lever la tête pour identifier d'autres innovations, d'autres technologies. C'est ça aussi... le rôle du CTO. Donc il y a un rôle vraiment d'organisateur, d'être à l'écoute, de mise en œuvre des technologies, puisque parfois il y a de nombreuses technologies qui doivent être mises en musique ensemble. Et lorsqu'on a plein d'experts, il faut quelqu'un qui prenne le recul pour que chaque expert puisse être efficace, mais que la solution finale soit pertinente.
D'accord, c'est très intéressant. Donc prendre le recul, ça veut dire aussi, donc finalement, ça veut dire regarder dans l'entreprise ce qui se passe, mais aussi se dégager du temps, regarder l'extérieur.
Et même dans l'entreprise, pouvoir zoomer et dézoomer, comprendre un enjeu technologique d'expert et pour pouvoir accompagner en fait cet expert dans sa démarche, dans ce qu'il est en train de fabriquer, de concevoir. Donc là, c'est quand on zoome très près, et puis pouvoir prendre du recul, encore une fois, dézoomer, parce que peut-être que cet enjeu technologique sur lequel on va déployer beaucoup d'énergie, bah, finalement, il y a un autre chemin à côté, un petit peu plus simple, qui permet d'aller là où on veut. Donc c'est toujours cette action de regarder dans la précision et d'essayer de garder aussi la vision d'ensemble.
Et alors, finalement, pour avoir cette compréhension fine des enjeux technologiques, techniques, j'imagine qu'il faut avoir un bagage assez...
Il faut effectivement être passé, on va dire, par des expériences. Alors, techniques, il faut avoir évidemment une appétence technique, ça c'est l'évidence. Et je pense aussi avoir vite lâché ce que j'appelle les querelles de clocher techniques. Hein. Il y a des gens qui ne jurent que par telle solution, d'autres que par telle solution. J'ai pas de religion de ce point de vue-là. Moi, pour le coup, je cherche à identifier ce qui va être le plus efficace pour ce qu'on a envie de faire. Ça peut être telle solution. C'est quelque chose qu'on va peut-être sourcer, quelque chose qu'on va peut-être développer ou faire développer. Donc il n'y a pas de particularité de ce point de vue-là.
Mmh. Il ne faut pas avoir d'idées préconçues.
Il ne faut pas avoir d'idées préconçues. Et puis il faut, à mon sens, comprendre que la technique n'est qu'un moyen aussi. Mmh. On a un objectif, on a un marché qui nous attend, on a des clients qui ont des besoins. On répond avec des solutions digitales, technologiques, parfois de haut vol. Hein. Et il faut avoir toujours en tête l'objectif pour que la technique ne vienne pas non plus grignoter finalement l'efficacité globale de la solution qu'on veut proposer.
D'accord. Et donc, tu travailles chez IPM France ?
Voilà, je suis chez IPM France.
C'est une start-up valentinoise ?
Oui, c'est une start-up valentinoise, tout à fait. On est exactement sur Romans-sur-Isère. IPM France, c'est une start-up mature maintenant qui propose des solutions de bornes interactives. Donc, on conçoit... on fabrique, on déploie et on maintient en condition et supervise des solutions de bornes interactives sur tout le territoire français et même bientôt à l'étranger sur différents usages. Mmh. Les plus connus sont des distributeurs de cartes SIM dans les boutiques Free, par exemple, ou bien les bornes qui permettent de louer les vélos Vélib sur Paris.
D'accord.
Voilà deux exemples intéressants. Voilà, on opère comme ça 15 000 bornes sur le territoire français qu'on a fabriquées et déployées. Et IPM, c'est une structure d'environ 50 personnes.
D'accord. Et donc là, concrètement, si on rapporte ton métier à ce secteur, les bornes interactives,
ouais.
En fait, tu es responsable de la technologie qui est dans ces bornes, puisque c'est des outils physiques qu'on peut trouver sur des points de vente. Et donc, tu es responsable de t'assurer que la machine à l'intérieur fonctionne
ça
bien.
Ça fonctionne, bien sûr. Ouais, ouais. C'est ce pourquoi j'ai rejoint IPM, en fait, c'est que y a vraiment une complétude. On parle d'une solution produit et service avec des contraintes très fortes quand on a une borne. Là, en général, c'est dans un environnement public. Et donc, il y a des contraintes d'usage, il y a de la sécurisation des dispositifs à mettre en œuvre. Et c'est très intéressant. C'est des défis que j'avais pas relevés avant. Dans d'autres contextes, dans mon parcours professionnel, pardon. Et chez IPM, c'est ça qui est passionnant, c'est de pouvoir effectivement allier l'envie d'amener, encore une fois, des nouveaux services, des choses disruptives ou des nouvelles technologies, avec le défi de conserver cet usage simplifié, cette sécurité, cette fiabilité de la borne. Mmh. C'est ça qui est très intéressant. La technologie et la robustesse en même temps.
Mmh. Allier finalement l'usage, enfin l'utilité, le fonctionnement et l'usage qui peut être fait de
l'outil. Oui, il y a une notion de service. La borne est un objet évidemment, mais elle est là pour, avant tout pour rendre un service. Ça aussi, c'est ce qui me séduit, que ce soit pour un vélo ou la distribution d'une carte SIM, comme je disais. À chaque fois, on rend service à un client, à un usager, et c'est ça qui me passionne.
D'accord. Et alors, donc tu disais, vous êtes 50.
Tout à fait.
Un CTO, par définition, alors c'est un... les métiers en CI, c'est un peu particulier dans les startups. Hein. On dit que c'est les métiers qui sont de direction. C'est un cercle de directeurs qui vont gérer tous les aspects de l'entreprise. Oui. Donc ça veut dire que, tu le disais aussi tout à l'heure, tu manages des personnes.
Tout à fait.
Comment ça se passe au niveau de l'équipe?
C'est une organisation. Alors, en préambule, effectivement, quand on est dans une startup, alors il y a des postes, il y a effectivement des intitulés. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de rester curieux de ce qui se passe ailleurs, de pouvoir participer à plein de sujets et de ne pas rester cantonné dans son précaré, finalement. Il faut pouvoir, là aussi, lever la tête avec ses collègues. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ce qui se passe chez IPM, notamment. L'organisation des services dont j'ai la responsabilité, bah, c'est d'abord un service opération, d'accord, fabrique, déploie et puis maintient en condition les bornes. Donc, avec évidemment une composante logistique et achat qui est forte, hein, puisqu'on parle de produits, on a des composantes importantes de ce point de vue-là. L'autre pan de responsabilité que j'ai, c'est la R&D, puisqu'il faut concevoir ces bornes, il faut écouter le client, il faut aussi proposer des innovations pour les apporter vers le client. Et donc c'est là que la R&D prend tout son rôle. C'est l'autre équipe que j'ai. Et puis enfin, une partie gestion d'affaires. Une fois qu'on a déployé des bornes, une fois que les choses sont en route, on a besoin... avec les ingénieurs d'affaires, d'accompagner nos clients techniquement sur ce qui... Puisqu'une borne, c'est un projet au long cours, et au cours de la vie de cette borne, le client doit être accompagné techniquement. Voilà les trois zones de responsabilité que j'ai.
D'accord. Mais finalement, en fait, ces trois zones, elles sont hyper larges.
Elles sont assez larges, oui.
Et ça couvre, j'ai envie de dire, le cœur de l'activité. Enfin, une fois que tu gères tout ça, après, tes interlocuteurs, c'est qui le dirigeant ?
Le dirigeant, le directeur commercial, le service marketing, la direction administrative et financière et la direction des ressources humaines. C'est ce qui est aussi particulier chez IPM, c'est que pour une structure de cette taille, on a réussi à intégrer plein de compétences et tous les services d'une grande boîte. Et donc c'est très riche puisque toutes les compétences sont là pour aller vraiment vers l'excellence, que ce soit d'un point de vue communication, opérationnel, dans l'encadrement des collaborateurs aussi. C'est très très intéressant de ce point de vue-là. Et pour finir de répondre à ta question, oui, il y a beaucoup de sujets dont je m'occupe, mais je ne suis pas tout seul, encore une fois. Il y a des experts, il y a des gens qui sont aussi de très bons managers sur lesquels je m'appuie pour que tout ça tourne.
D'accord. D'accord. Donc ces personnes sur lesquelles tu t'appuies font finalement partie de ces services.
De ces services-là, voilà, d'accord. Exactement.
Oui, bien sûr, effectivement. J'imagine qu'il y a du monde pour gérer
exactement
toutes ces choses-là. D'accord. Eh ben, c'est très intéressant. Et alors, tout à l'heure, tu évoquais le fait que dans une start-up, le métier de CTO, c'est ça. Mais alors, ce métier, il existe aussi dans d'autres entreprises qui ne sont pas des start-up ou...
Je suis d'accord. Tu as tout à fait. Les CTO, il y en a dans toutes les structures, grandes, petites, start-up, pas start-up. La différence, encore une fois, je pense, c'est la curiosité et l'envie de dépasser son périmètre, en fait.
Est-ce que tu penses que le métier de CTO dans une start-up, il est différent du métier de CTO, je ne sais pas, dans une PME ?
Oui. Mais je pense comme dans beaucoup de... Alors, PME, je ne saurais pas te dire, mais dans une start-up, effectivement, il y a ce besoin de construire. Il faut qu'on construise, il faut avancer. On n'est pas sur quelque chose qui est existant, qui est à entretenir, qui est à optimiser. Là, on cherche à construire, on cherche à développer. Et ça demande une tournure d'esprit qui n'est pas tout à fait la même, on va dire, dans une structure déjà bien établie et qui connaît bien son marché, comme les PME classiques.
Ça demande certainement un engagement assez important et une envie, j'imagine.
Une envie, oui, une curiosité. Je parle de curiosité, oui.
D'accord. Et je me demandais aussi comment est-ce qu'on en vient à exercer le métier de CTO. C'est pas forcément un métier qui est très connu, ou en tout cas, peut-être que ça l'était pour toi. Comment ça s'est passé? Par exemple, est-ce que c'est quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps? Tu l'avais déjà non. envisagé toi?
Non, moi, je voulais travailler dans les métiers techniques, ça c'est sûr. J'ai eu les premiers, alors c'était même pas des PC à l'époque, mais ordinateurs personnels à la maison, je sais plus, à 6-7 ans, ça me rendait dingue déjà.
Des petits, tu
veux. Des petits, ouais. Je savais que j'aimais ça. Ensuite, est-ce que j'en ferais quelque chose? Mais et donc, je me suis orienté vers ces sujets-là. Et ce qui m'a fait évoluer vers ce poste de CTO, bah oui, c'est l'envie, l'envie de faire aussi. À un moment, on sait faire. On est un expert, un développeur, un concepteur. Et puis après, on se rend compte qu'il y a d'autres acteurs dans le monde de l'entreprise et que ces acteurs-là aussi, ils ont un rôle à jouer et on souhaite discuter avec eux. Et c'est ce que je disais, ça fait prendre du recul. On se rend compte qu'aussi, quand on arrive à faire quelque chose à plusieurs, c'est presque encore plus épanouissant que de réussir dans son coin sa conception. Donc c'est ça. Et puis faut être honnête aussi, c'était pas un objectif de carrière pour moi, c'est la vie professionnelle qui m'a aussi un petit peu apporté vers ces sujets-là, où j'ai rencontré des gens, c'est très important, qui ont su me faire confiance, qui parfois m'ont poussé aussi vers des formations, justement pour pouvoir aller jusqu'à ce poste-là.
Comment ça s'est passé alors? Dis-nous tout. Quel est ton parcours en fait?
Alors j'ai diplômé, sorti d'école, j'ai rapidement rejoint une première start-up. Jeune diplômé quasiment. Donc là justement en tant qu'ingénieur développeur.
Donc tu avais fait des études d'ingénieur.
Ouais. Voilà, j'ai un parcours d'ingénieur. Et c'était malheureusement, cette structure est liquidée maintenant. C'était une boîte qui développait, il y a un moment, et en avance de phase sur les sujets qui maintenant sont vraiment bien identifiés sur la télémédecine. Et donc, on faisait de la télémédecine avant l'heure. C'est pour ça que j'ai ramené ce petit oxymètre, saturomètre dont je parlais au début de notre conversation. Et c'est au sein de cette boîte que effectivement j'ai été un faiseur technique d'abord, et puis ensuite j'ai commencé à faire avec d'autres, et puis ensuite j'ai fait faire, et puis j'ai pris de plus en plus de responsabilités. On m'a accompagné pour une formation pour apprendre ce qu'est l'administration d'une entreprise notamment, et donc prendre.
Et ça c'est important quand tu. Enfin, t'es tombé dans une start-up, ton poste au début c'était...
J'étais ingénieur de développement.
Ingénieur de développement.
Ouais, ouais.
Et finalement, comment est-ce que ça se fait que t'en sois venu à faire une formation sur la connaissance de l'administration en entreprise?
Parce qu'à un moment, il y a besoin de compétences quand même. Il y a l'expérience effectivement, travailler avec d'autres gens, entendre parler de finance, de droit, de RH... C'est une chose, et en discuter avec les gens qui sont compétents professionnellement, c'est une chose. Mais acquérir un bagage académique, c'est important aussi. Et là on m'a bien accompagné. Moi, je suis ravi parce que ça permet effectivement d'avoir du recul, de pouvoir discuter avec beaucoup de gens, de beaucoup de sujets, et de comprendre d'autres contraintes, encore une fois, que des contraintes techniques.
Et cette formation, elle t'a permis finalement d'avoir un regard peut-être plus à 360 sur
Tout à fait.
Les besoins
c'est
d'une
ça.
Entreprise. Et ça, c'est important.
Je pense que c'est crucial. C'est crucial.
Est-ce qu'on pourrait se dire, finalement, un ingénieur qui rejoint une équipe peut se cantonner, entre guillemets?
Ah, mais tout à fait. C'est pour ça que c'est l'expert, et on a besoin des experts. On n'est rien sans les experts. C'est eux qui résolvent les défis technologiques pointus. Mais effectivement, ils doivent se concentrer sur des domaines précis, pointus. Et en revanche, il faut pouvoir... Encore une fois, prendre du recul pour pouvoir les piloter efficacement dans le cadre de cette vision 360 dont tu parles.
Donc en fait, finalement, c'est via une couche de connaissances 360, on va dire, de l'entreprise, que tu as pu évoluer sur d'un poste plutôt d'expert vers un... C'est ça ?
Oui. Alors, c'est pas aussi simple que ça, parce que ça se passe aussi dans la vie de tous les jours, ouais. Au travail, dans une appétence que j'ai, dans les gens que j'ai rencontrés, qui m'ont fait confiance. Mmh. Donc, on grandit tous les jours au travail, mais on ne franchit pas un palier. C'est pas parce que j'ai fait cette formation. Cette formation, elle me donne une légitimité académique sur certains sujets. Mmh. Mais en réalité, c'est l'expérience qui fait que j'ai pu aller aussi jusqu'à cette formation, déjà. Mmh. Si je l'avais faite sortie de mon école d'ingénieur, je pense que ça n'aurait pas été très utile. Mmh. Il faut l'expérience et puis un vernis académique, pourquoi pas.
D'accord. Ok. Et après ça, du coup, tu as commencé à... Je ne connais pas très bien les échelons qui peuvent exister entre...
Bah alors, il n'y a pas d'échelon. Ingénieur, responsable, on va dire, dans l'échelon du dessus, et puis effectivement un poste de direction ensuite, s'il faut les dessiner. Mais il faut se méfier des échelons, justement, quand on veut être dans l'esprit agile d'une start-up.
C'est pas aussi évident que ça.
C'est pas aussi évident que ça. On peut demander à quelqu'un d'accueillir un client alors que c'est pas du tout sa vocation première. Et puis on peut demander au directeur de s'occuper de la fenêtre qui ferme mal parce que c'est le week-end, il est vendredi et si elle ferme pas, ça va pas.
Il faut être couteau suisse.
Oui.
Ouais.
C'est ce qui fait qu'on s'ennuie pas.
Ok. En tout cas, on sent que le côté start-up. Semble te plaire.
Oui.
Si tu devais, conseiller un jeune ou alors une personne moins jeune qui cherche un emploi, quels seraient tes arguments pour et contre ? Je ne sais pas si tu en as comme ça, mais qui te viennent, mais travailler en start-up. Et est-ce que finalement, j'ai oublié de te poser la question avant, est-ce que tu as eu d'autres expériences qu'en start-up ? Parce que tu évoquais ton premier...
Quasiment pas. Après cette expérience, donc, dans cette structure où on faisait de la télémédecine, j'ai eu une aventure entrepreneuriale où là, je suis passé de l'autre côté pendant 2 ans. Sur un autre sujet passionnant, je suis passé de la santé à l'écologie puisqu'on développe, la boîte existe toujours, maintenant j'y suis plus, des systèmes d'arrosage intelligents pour économiser de l'eau.
Ok.
Là aussi du service, de la techno et puis du sens, juste avant de rejoindre IPM. Et donc pour répondre à ta question sur comment on convaincrait quelqu'un de vouloir s'engager en start-up, alors... Le contre, ce serait, c'est pas toujours confortable. Il y a des défis à relever, il y a des priorités qui changent. C'est pas un train tranquille, une start-up, ça bouge. C'est ce qui m'amène aussi au pour, c'est que c'est riche d'expérience, ça ouvre à la curiosité. Quand on a plutôt envie d'avoir, comment dire, un environnement professionnel dynamique, c'est là où il faut aller.
En tout cas, je trouve que ton parcours en dit long, effectivement, sur l'intérêt que tu as pour les startups, puisque finalement, tu es tombé dans une startup. Est-ce que c'était par hasard au début ou est-ce que c'était un choix quand tu es arrivé dans ta première startup en tant que jeune diplômé ?
Ouais, c'était peut-être un hasard.
Un hasard et finalement...
Et finalement, c'est là où j'ai pu me réaliser, ouais. Je ne suis pas allé ailleurs.
Ouais, voilà. C'est ce que j'allais dire. Mmh. Tu as continué dans ce milieu-là, alors parfois avec la casquette entrepreneur, parfois avec la casquette salariée de
start-up. C'est ça.
Ouais. Ok. Et pour revenir sur le métier de CTO, si on veut avoir une image concrète de ce que tu fais dans la vie de tous les jours, est-ce que tu pourrais me donner une idée de soit ta journée type, si ça te semble cohérent, soit peut-être ta semaine type, est-ce que c'est bien organisé, bien découpé ? Comment ça se passe ?
C'est beaucoup d'échanges. Donc la journée type, arriver, évidemment, dépiler les mails qui arrivent, extérieur, intérieur, tout de suite prioriser, puisqu'il y a des choses dont on sait qu'il faut réagir, pour lesquels il faut réagir tout de suite, donc mobiliser les gens peut-être très rapidement, et puis d'autres qui sont au plus long cours. Et puis c'est préparer aussi les réunions où il y a des sujets, alors qu'ils peuvent être techniques, commerciaux, etc., à venir. Et puis la journée est assez rythmée par pas mal de réunions, d'échanges, où effectivement, bah, y a de la prise d'information, il y a du partage d'informations, il y a des arbitrages. Et puis ensuite, bah, c'est le redispatch de ce qui sort de ces réunions dans tous les sens. Hein. Parfois, c'est un sujet technique bloquant, dont il faut que les dirigeants soient au courant. Parfois, c'est une décision stratégique qui vient infléchir les travaux qu'on avait déjà engagés. Et il faut communiquer là-dessus et il faut accompagner tous les faiseurs. Voilà comment, à quoi ressemble une journée d'un CTO, vue d'avion.
D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres raisons qui ont fait que tu as rejoint cette start-up ?
Oui, IPM France avait une très belle image sur le bassin valentinois, et notamment labellisé French Tech 120. C'est des choses qui sont très séduisantes pour moi.
French Tech 120, donc en fait, c'est le classement des 120 startups les plus prometteuses.
Au niveau national.
Au niveau national.
Ouais, ouais, ouais. C'est pas rien.
Super, bah, félicitations.
Merci.
À l'équipe. C'est quoi la recette pour devenir CTO pour les personnes qui pourraient être intéressées par ce métier? Qu'est-ce qu'il faut faire? À la fois comme peut-être études, expérience
Il faut venir d'un milieu technique, je pense.
Et en même temps, c'est très large.
C'est primordial, parce qu'il faut, il faut parler aux experts. Et donc, il faut avoir envie de comprendre des sujets techniques qui peuvent être compliqués. Il faut avoir la curiosité aussi de s'intéresser aux autres fonctions d'entreprise. Ça, c'est très important. Avoir envie de manager, ça aussi, c'est très important. Et le management d'experts, parfois, ça peut être compliqué. Ce sont des gens qui savent, ils savent, et ils ont raison 80% du temps. Et donc, il faut les écouter et arbitrer, ce qui est parfois difficile. Et puis, je crois que c'est déjà pas mal pour, comme on va dire, comme recette pour, pour devenir CTO.
Donc, s'intéresser à la technique, mais ce que je disais, c'est que c'est très large. Donc, en fait, on peut faire aussi parler, j'imagine, ses intérêts. Donc, si on est intéressé pour par certaines...
Alors, il y a le métier qui tire, effectivement. On peut être CTO dans la santé, dans l'écologie, dans les transports. Et là, pour le coup... En tout cas, pour ce qui me concerne, il n'y a pas de domaine de prédilection. J'aime bien que le domaine ait du sens. Donc la santé, ça avait du sens. L'écologie, ça a eu du sens. Chez IPM aussi, où je suis aujourd'hui, on travaille sur des projets de santé qui sont très, très intéressants. Donc je retrouve ce sens dans les métiers qu'on aborde. Et il faut aussi avoir effectivement cette envie de se projeter vers le métier pour que l'aspect technique soit seulement au service du métier.
Et que ce ne soit pas une barrière pour toi de te tenir informé des évolutions.
Exactement.
Ouais. Je me demandais, le métier de CTO, c'est un métier que tu occupes depuis combien de temps ?
Alors pratiquement, ça fait 10 ans.
10 ans.
Le titre, enfin, c'est un titre.
Ouais, c'est un...
Mais je l'ai exercé de plein de manières différentes. Le poste que j'occupe aujourd'hui... J'ai la responsabilité, par exemple, de fabrication, d'un service de fabrication et industriel, ce que j'avais pas avant. Donc, il faut.
C'était le sens de ma question. Oui. En fait, est-ce que tu as observé des évolutions ? J'imagine que c'est très lié finalement à ton expérience, mais est-ce que c'est un métier qui...
C'est clairement lié. Dans le monde des startups, c'est lié à la structure elle-même. Comment est-elle organisée ? Qu'est-ce qu'elle a comme fonction ? Lesquelles sont techniques ? C'est pas toujours la même chose. Et donc le périmètre, il peut évoluer, ouais, tout à fait.
Donc il y a autant de définitions de CTO que de...
Sur les sujets, ouais, il y a autant de définitions que de boîtes qui existent, je pense, effectivement.
Et c'est finalement à chacun de construire un peu les contours, j'imagine.
Dès qu'il y a directeur dans un titre, c'est un peu le cas.
Mmh.
il faut construire son poste, il faut définir ses responsabilités, parfois les redessiner, les rediscuter. Et ça aussi, c'est intéressant, pouvoir faire évoluer son propre poste.
Parce que aussi, la spécificité d'une start-up, c'est que elle, c'est une entreprise à fort potentiel de croissance qui, quand ça se passe bien, croît, oui, justement. Et donc, ça veut dire que les équipes augmentent, ça, oui, veut dire que ça se structure différemment. Il y a une évolution interne qui est permanente. Et donc, il y a ça aussi, le rôle de CTO, il évolue au fil du temps et en fonction de la maturité de la start-up.
En start-up, tout à fait. Accompagner la croissance, répondre, comme tu l'as dit, hein, aux défis d'organisation, finalement. Lorsqu'on a une croissance comme ça, on accueille de nouveaux collaborateurs, on fait rentrer peut-être de nouveaux marchés, de nouvelles technologies. Et il faut s'armer pour pouvoir digérer tout ça en restant compétitif, à l'écoute du marché et efficace pour les clients.
Tu parlais d'agilité.
Oui.
C'est un terme qu'on entend souvent aussi.
Souvent, oui.
C'est quelque chose qui fait partie de ton quotidien, les méthodes agiles.
Oui, etc. Alors les méthodes agiles, oui. Oui, comment dire, toute start-up fait de l'agilité, qu'elle le dise ou pas, finalement. L'agilité, c'est être capable de remettre en question, de manière partagée, finalement, ce sur quoi on a commencé à travailler. Et donc, c'est être à l'écoute, être dynamique, et ne pas être, on va dire, bloqué sur ce qui a été défini au départ. Les choses peuvent évoluer, les choses doivent évoluer. Pour moi, c'est ça, l'agilité.
Très bien. Merci beaucoup, Cédric.
Merci, Mathilde.
C'était le podcast Startup Job Story. Merci à toutes et tous pour votre écoute. En attendant le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Rendez-vous aussi sur www.startupjobstory.com. Merci et à bientôt pour une nouvelle histoire.